À suivre dans les prochaines minutes, la chronique média. On va revenir sur la polémique après la tribune publiée par Elon Musk dans un quotidien allemand. Mais d'abord, direction Vilnius. La capitale de la Lituanie, Vilnius, et son église Sainte-Anne, celle Saint-Pierre et Saint-Paul, sa porte de l'aurore aussi. Et puis ces arbres, un petit peu partout dans la ville, largement visibles quand on la survole, ça lui vaut d'ailleurs d'avoir été désigné par la Commission européenne à capitale verte de l'UE pour cette année 2025, une récompense plus largement des efforts réalisés par Vilnius pour se développer de manière plus durable. Vilnius, c'est une capitale de 600 000 habitants en croissance constante et qui a de grandes ambitions. Elle veut devenir un lieu d'expérimentation. Reportage de notre correspondante Marielle Vitureau.
Vu du ciel, Vilnius est une ville verte. 61% du territoire est recouvert par la nature. On trouve même une forêt en plein centre-ville. Yekaterina Lavrinets, anthropologue.
Vilnius a sa couronne verte, des plantations qui entourent la ville et qui sont visibles de nombreux endroits de la ville. Au début du XXe siècle, on plantait encore des allées à Vilnius, ce qui a incité à se déplacer à pied dans la ville.
La ville a obtenu ce titre pour les efforts faits dans différents domaines comme la qualité de l'air, l'adaptation de la ville au réchauffement climatique ou la diversité biologique. Jurga Mikutiene est responsable du projet de capitale verte.
Nous cherchons à préserver la faune et la flore à divers endroits. Et notre décision de ne pas tondre tous les espaces verts, comme c'est habituel, a été très remarquée.
La municipalité a aussi réduit la largeur de certaines voies pour faire de la place aux piétons et aux vélos. Comment mieux se déplacer dans la ville est l'une des grandes préoccupations de la municipalité. Silvestras Dikčius, formateur en développement durable.
Il y a 5 ans, la ville a restreint le flux de voitures pouvant circuler dans le centre. Pour moi, ça a permis aux gens de comprendre que se rendre partout en voiture n'est pas forcément un mieux.
Plus d'une centaine de kilomètres de pistes cyclables relient désormais les différents quartiers de Vilnius, une ville très étendue. Les transports en commun sont de plus en plus écologiques. Jurga Mikutiene.
Les trolleybus sont des bus reliés par des antennes à un réseau électrique. Maintenant, nous avons des véhicules qui rechargent leurs batteries en roulant connectés au réseau. Ils peuvent être autonomes pendant un certain temps et ainsi, il n'y a aucune émission de CO2.
Néanmoins, tout n'est pas rose pour l'anthropologue Yekaterina Lavrinets.
Les surfaces dures augmentent dans la ville. De plus en plus d'espaces verts disparaissent pour faire place à de nouveaux quartiers. C'est dû au modèle économique. Les prêts immobiliers sont bon marché et la demande est là.
Durant cette année où Vilnius sera la capitale verte de l'Europe, l'accent sera mis sur la communication et la sensibilisation à l'écologie. En 2030, Vilnius a l'ambition de devenir neutre du point de vue climatique. Marielle Vitureau, Vilnius, RFI.
Un reportage à retrouver sur RFI.fr. 7h47 à Paris.
RFI, toute l'actualité. Gaëtan Plenès.
Des milliers de personnes attendues dans les rues de Séoul, soit pour soutenir, soit pour exiger l'arrestation du président déchu Yoon Suk-yeol. Les enquêteurs ont tenté de le faire hier, mais ils ont été empêchés par le service de sécurité et des soldats au domicile de l'ex-dirigeant. Assad al-Shibani, le nouveau chef de la diplomatie syrienne, annonce qu'il va multiplier les visites régionales dans les jours qui viennent. Il doit se rendre au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Mike Johnson conserve finalement le perchoir de la Chambre des représentants. La chambre basse du Parlement des États-Unis a réélu hier ce proche de Donald Trump comme speaker. Il lui aura fallu 2 tours de scrutin. 3 élus républicains avaient d'abord voté pour un autre candidat. Et les États-Unis, où le président élu Donald Trump dénonce une attaque politique illégitime, la justice prononcera sa peine dans l'affaire Stormy Daniels le 10 janvier prochain, 10 jours donc avant sa prise de fonction à la Maison-Blanche. Mais le juge du tribunal de Manhattan précise d'ores et déjà ne pas être enclin à lui imposer une peine d'incarcération. Elle se définit elle-même comme une artiste créative, oui, mais dotée aussi d'un esprit d'affaires. Angèle Kaba est l'invitée de la rédaction africaine ce matin. Danseuse, chorégraphe, directrice artistique née en Belgique d'une mère martiniquaise et d'un père congolais, elle est la première femme à diriger un spectacle off-Broadway. Ça s'appelle Breaking NYC. Une plongée dans l'univers du hip-hop et une célébration des danses afro-urbaines dont elle est considérée comme une ambassadrice incontournable. Angèle Kaba répond aux questions de Christina Okello.
Angèle Kaba, bonjour.
Bonjour.
Off-Broadway et Broadway, quelle est la différence ?
Broadway, c'est une quarantaine de théâtres officiels avec plus de 400 ou 500 places, avec des budgets en général qui vont entre 1 million de dollars et plus. Et puis il y a ce qu'on appelle Off-Broadway. C'est la catégorie juste en dessous avec des théâtres un peu plus petits, avec moins de budget. Donc en l'occurrence, le théâtre où Breaking NYC a été produit, c'est 149 places.
Comment êtes-vous arrivé à diriger ce spectacle et quelle est son histoire ?
En fait, j'avais pas du tout d'histoire. J'avais un mois devant moi parce que le théâtre dans lequel on a produit Breaking NYC était vide, était disponible en fait. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que pendant les auditions, j'ai fait 2 jours d'audition où j'ai eu une 60aine d'artistes qui sont venus d'un peu partout. Au fur et à mesure des auditions, je commençais à créer des petites histoires dans ma tête en fonction des danseurs que j'allais sélectionner. Donc après, on s'est focalisé sur l'évolution des danses. C'est-à-dire, on part du hip-hop qui est le breaking, le breakdancing, et ensuite, on va sur d'autres danses, on va dire urbaines, qui découlent du hip-hop, mais qui sont pas forcément hip-hop, ou alors qui sont attachées au mouvement, comme le popping, le locking, on a vu le crump, on a vu le light feet, qui est un style de danse qui est né à New York au début des années 2000. Et en fait, chaque style de danse a été attaché à une petite histoire personnelle de chaque danseur, mais elles ont aussi été présentées dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été créées.
Quel accueil a reçu ces spectacles ?
Franchement, c'était au-dessus de mes attentes. Je stressais énormément parce que en tant qu'immigrée, on se sent toujours un peu petit, on se dit ouais, je suis pas à ma place, peut-être que je suis pas assez fort, peut-être qu'ils sont mieux que moi. Enfin, il y a plein de doutes qui se mettent dans nos têtes. En plus, avec le nouveau gouvernement qui se met en place ici, les gens étaient un peu impressionnés parce qu'ils s'attendaient pas qu'une Africaine antillaise immigrée pouvait créer un spectacle comme ça aussi authentique. En fait, j'ai vraiment respecté la culture hip-hop au mieux que j'ai pu en fait parce que c'est une culture qui m'inspire.
Dans un milieu théâtral souvent rigide, comment avez-vous réussi à préserver votre identité?
En travaillant très très dur, je suis arrivée tout doucement mais sûrement. Et quand ce projet est venu, j'ai pas eu à trop en fait compromettre mon art pour créer en fait. Et ça c'était bien. Bien sûr, le hip-hop, les danses hip-hop, la culture hip-hop, le mouvement hip-hop, c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi, j'ai évolué depuis l'âge de 16 ans. Mais mon identité africaine, antillaise, est diverse en fait, est toujours là. Donc je pense que je vois les choses différemment. Je vois l'évolution des danses ou l'histoire américaine ou des noirs américains différemment parce que je suis pas née dedans. Donc j'ai un regard intérieur peut-être qui permet, j'ai envie de dire, de mettre les choses en avant ou de les embellir différemment, ça c'est sûr.
Née en Belgique, d'une mère martiniquaise et d'un père congolais, comment vos racines influencent-elles votre travail ?
Je suis une petite meuf de quartier, congolaise, martiniquaise, c'est un des métissages les plus banals qui existent chez nous. Jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais pu être capable de créer un spectacle qui touche le cœur des gens comme ça. C'est vrai que toute cette, j'ai envie de dire, cette diversité, cette multiculturalité, elle est présente dans mon travail. Je pense pas que j'aurais pu réaliser un projet comme ça sans, j'ai envie de dire, m'inspirer de qui je suis.
Vous avez créé une technique de danse appelée Kafrikaan. Est-ce une façon de rendre hommage à vos origines ?
En fait, au début, j'avais du mal à trouver ma place. Je me souviens que quand je donnais cours de hip-hop ici, j'étais comparée ou en compétition, on va dire, avec tous les gens qui sont nés ici, qui ont travaillé avec des gros artistes, je sais pas, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Kanye West, tout ça. Donc, je me suis dit, oulala, je m'attaque à quelque chose de solide. Et j'ai dû, en fait, pour me différencier de la concurrence, venir avec mes origines. Et c'est comme ça que j'ai créé ce qu'on appelle la technique Kafrikaan. Mon nom, Kaba, et africaine pour la danse africaine. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, pourquoi les gens pensent que je suis l'ambassadrice des danses afro-urbaines ici ? Tout doucement, j'ai commencé à apporter l'idée que les danses afro-urbaines, elles existent à part entière et qu'on n'a pas besoin en fait de les mélanger ou de les fusionner avec d'autres styles. Et tout doucement, j'ai commencé à créer un mouvement qui s'appelle Afro-Dance New York, où en fait, les danses afro-urbaines et sociales, eh ben, elles sont représentées pour ce qu'elles sont. Le dombolo, le coupé décalé, l'afro-house, différents styles de danse que j'enseigne pour ce qu'elles sont. Je n'ai plus besoin aujourd'hui de le fusionner avec le hip-hop parce que maintenant, les gens aujourd'hui sont assez éduqués, ouverts et réceptifs à ces danses-là.
Quels sont vos rêves aujourd'hui ?
J'aimerais bien ouvrir un centre culturel ou un centre des arts quelque part en Afrique, pas forcément le Congo. Je rêve le Kenya, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'y ai jamais été. J'aimerais bien avoir la plus grosse institut artistique et que les gens de l'extérieur du monde entier viennent enseigner ou apprendre en fait de nous.
Angèle Kaba, merci.
Danseuse, chorégraphe et directrice artistique, elle était interrogée ce matin par Christina Okello. En Tunisie, on les surnomme les Berbéchas. Ce sont les collecteurs de plastique. Le pays en compte près de 8000, dont de nombreuses femmes, très exposées au risque de ce métier qui fait partie de l'économie informelle, car la Tunisie ne dispose pas d'un système de tri sélectif. La plupart de ces métiers de recyclage de plastique restent donc précaires. Une étude de l'association Union nationale de la femme tunisienne met en lumière les conditions de travail de ces femmes. Notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise, a suivi le quotidien de l'une d'entre elles. Reportage.
Chaque jour, Basma Lamliki, 53 ans, sort avec une poussette rafistolée pour faire sa tournée. Entre les poubelles et les particuliers, elle collecte les bouteilles de plastique et du pain rassis. Elle vend les bouteilles à un dépôt de plastique et le pain aux agriculteurs pour leur bétail.
Alors là, vous voyez, je vais passer voir une dame que je connais depuis longtemps. Elle me prépare les bouteilles vides en général, chaque vendredi.
Donc ça vous évite de chercher dans les poubelles ?
Non, je passe toujours faire les poubelles aussi au cas où, car ça complète ce que l'on me donne directement. Et aussi, si quelqu'un est absent et que je n'ai pas eu assez de bouteilles dans ma tournée.
Ce labeur, elle le pratique depuis 30 ans, dans le quartier de l'Ariana à Tunis.
Bonjour Basma, tu as des bouteilles plastiques pour moi ?
Son travail est essentiel, car sa mère et son frère, malades, dépendent d'elle financièrement.
Quand j'avais la vingtaine, nous n'avions pas suffisamment de moyens dans ma famille. Je ne trouvais pas de travail, donc un jour, je suis sortie avec le chariot, qui nous sert pour la bonbonne de gaz, et j'ai commencé à demander à des gens du quartier s'ils avaient du pain ou des bouteilles vides, car je savais que je pouvais les vendre.
Basma compresse ses bouteilles pour réduire leur taille. Elle fait tout à main nue, sans gants de protection. Une fois sa tournée finie, elle va peser et vendre son sac de plastique dans un dépôt.
Allez Karim, dépêche-toi. Pèse mon lot d'abord, car je dois y aller et n'oublie pas de me redonner le sac. Voilà, ça fait 6 kilos. Le kilo est à 1 dinar, donc j'ai gagné 6 dinars aujourd'hui.
Soit 2 euros, qui lui permettront de nourrir sa famille pour la journée seulement. C'est cette précarité qu'a voulu mettre en lumière Maha Berghaoui, auteure de l'étude sur les femmes berbéchas pour l'Union nationale de la femme tunisienne.
Notre étude a montré qu'une femme sur cinq ne bénéficie pas de carnet de soins, donc n'a pas accès aux soins gratuitement. Malheureusement, les femmes qui devraient être à la retraite sont encore en train de travailler.
L'étude est l'une des premières en Tunisie à révéler les conditions de ces femmes.
Cette étude, qui est le début d'une recherche-action, a pour l'objectif de mettre en exergue la vulnérabilité de ces femmes, de définir leurs besoins dans un but ultime, qui est le plaidoyer auprès des décideurs.
Mais la grande majorité travaille sans aucune couverture sociale. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et ce reportage, il est évidemment à retrouver sur RFI.fr et sur notre application Pure Radio. La chronique média sur RFI, on revient avec vous, Amaury de Rochegonde, sur cette tribune publiée en Allemagne par Elon Musk. Bonjour Amaury.
Bonjour Gaëtan.
La tribune publiée à quelques semaines des élections du 23 février dans Die Welt, le quotidien édité à Berlin par le groupe Axel Springer.
Oui, c'est une tribune publiée dans l'édition dominicale de Die Welt où Elon Musk se déclare favorable à l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne, qui est selon lui la dernière lueur d'espoir pour ce pays. Il loue la politique d'immigration contrôlée de ce parti d'extrême droite, ainsi que ses objectifs de réduire les impôts ou de déréglementer le marché. Aussitôt, une rédactrice en chef des contributions éditoriales du journal, Eva-Marie Kogel, a démissionné. Et ce n'est pas la mise au point publiée avec la tribune qui l'a arrêtée. Dans cet article, le nouveau rédacteur en chef de Die Welt, Jan-Philipp Burgard, apporte la contradiction à l'homme le plus riche du monde. Même un génie peut se tromper, écrit-il, rappelant qu'un dirigeant de l'AFD a utilisé un slogan nazi et que ce parti est un danger pour nos valeurs et notre économie.
Mais cette mise au point, Amaury, n'a pas empêché la polémique.
Et non, car cette tribune est partie d'un tweet de Musk disant que seule l'AFD peut sauver l'Allemagne. Elle permet de donner la caution, pour ne pas dire l'onction, du grand quotidien libéral conservateur à des propos qui auraient paru inacceptables, donc impubliables, si son auteur n'avait pas été Elon Musk. Pour Musk, par exemple, l'AFD ne peut pas être classée à l'extrême droite car sa chef de file, Liz Wedel, est en couple avec une femme originaire du Sri Lanka. L'association des journalistes allemands a dénoncé une publicité électorale et rappelé que les médias ne devaient pas servir de porte-voix à des autocrates.
Et cette tribune, Amaury, est-ce qu'elle est en contradiction avec les valeurs du groupe Axel Springer ?
Ben, on peut le penser si on se souvient qu'Axel Springer avait fait mettre en 1967 dans chaque contrat 5 principes éditoriaux qui incluaient de favoriser l'unification de l'Europe et de rejeter toutes les formes d'extrémisme politique. Deux principes antinomiques avec l'AFD que le patron Matthias Döpfner a lui-même rappelé en 2002. Depuis, ce Bolloré allemand affiche sa proximité avec Elon Musk, auquel il a remis un prix de l'innovation en 2020. Quant à Musk, il a pris position en faveur du leader anti-migrant Nigel Farage au Royaume-Uni, où il estime qu'une guerre civile est inévitable après les émeutes de cet été. Il appelle à la libération d'un activiste anglais d'extrême droite actuellement en prison, Tommy Robinson, dont il a d'ailleurs rouvert le compte sur X. Si on ajoute le système autoplay de son réseau social qui pousse par défaut des vidéos racistes et antisémites, il est temps de se demander ce qu'il y a d'extrême droite chez le futur ministre de Trump.
La chronique média signée Amaury de Rochegonde.
100% création, Maria Afonso.
Retournons à Notre-Dame de Paris avec 100% création. Découvrez les compagnons, artisans d'art ou designers qui ont travaillé sur ce chantier. Ce dimanche, Marie Parent d'Alraud, restauratrice de peinture murale. Elle a nettoyé et redonné des couleurs au mur des chapelles de Notre-Dame de Paris. Retrouvez-nous à 7h55 et 12h54 TU sur RFI.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
TikTok s'est imposé dans les téléphones des ados et jeunes adultes. L'application chinoise se voit reprocher d'aspirer nos données personnelles, de laisser circuler de la désinformation et d'être addictive, mais elle est aussi un outil pédagogique devenu presque incontournable pour les lycéens et étudiants. On parle de TikTok dimanche à 11h10 TU sur RFI dans l'atelier des médias.